toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
Eh bien, bonjour chez vous, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 MHz de la bande FM. C'est la Voix du Mag qui commence aujourd'hui une émission qui va donner la parole à ces personnes que l'on a exclues du discours, mais pas que. Avec nous dans les studios, Denis et G qui sont ici et maintenant pour échanger autour du week-end contre toutes les prisons et qui se déroulera le vendredi 27 et samedi 28 à Toulouse et à Muret, avec une série de rencontres et d'activités que nous allons détailler au cours de cette émission. Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Bah ça va.
Super, super.
Un peu froid.
Tu m'étonnes. Bon, alors je vais vous surprendre par une question à laquelle vous ne vous attendez absolument pas, parce qu'on ne l'a pas du tout répété.
C'est de l'impro.
Ouais, c'est de l'impro total. C'est quoi pour vous la prison ? Est-ce que vous avez une petite définition personnelle ?
Moi, je veux bien me lancer. En tout cas, pour moi, la prison, c'est vraiment un des rouages importants de ce monde. C'est un peu le bout de la chaîne, celui qu'on voit pas, celui qui est un peu caché, éloigné, mais pourtant qui est présent un peu partout par la peur qu'elle suscite. Et par son importance pour les personnes qui auraient des comportements déviants ou qui voudraient en avoir. Et du coup, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est caché. D'ailleurs, toutes les nouvelles prisons, ils les construisent à 20 ou 30 km des villes, quoi. Hein. Mais en même temps, qu'il y a une présence, qui est là partout, quoi, autour de nous, et qui nous bloque des fois de faire des choses. Et du coup, je m'étale pas trop, mais
ouais, pour moi c'est vraiment un outil qui permet de cacher la misère de notre société et qui permet surtout d'individualiser les problèmes qui sont liés à la pauvreté ou qui sont liés aux problèmes psychologiques, au fait qu'on rentre pas dans les cases. Enfin, c'est un outil de la domination du système de l'État, surtout. Et qui permet d'enfermer les indésirables et d'éloigner les problèmes.
Bon, alors c'est beaucoup de paramètres qui n'apparaissent pas étrangement dans la définition officielle.
Ouais, c'est un peu orienté.
Alors moi j'ai trouvé, alors bon, voilà, donc c'est un peu plus réducteur, c'est la privation de liberté du ou de la détenue qui a commis une infraction et qui doit être punie. Donc peut-être qu'on peut revenir un peu aux origines, faire un peu d'historique concernant la prison, puisque ça permettra aussi de comprendre voilà, tous les éléments que vous avez commencé à donner autour de l'éloignement, de la menace. Donc l'évolution vers un système carcéral s'est faite non pas par pure humanité, mais davantage pour répondre aux évolutions de la société qui rejetait alors le pouvoir du roi. À compter du XVIIIe siècle, on a délaissé la punition-vengeance, marque du pouvoir absolu du souverain sur le corps du condamné, pour une punition-défense visant à protéger la société des criminels. Donc ça, je trouve ça important, parce que là, la société prend corps quelque part et on veut s'en protéger en isolant la personne. On a donc adouci les peines, codifié celles-ci, c'est-à-dire pour chaque crime, il y avait une peine spécifique prévue dans la loi et le juge a obtenu de plus en plus d'indépendance dans son appréciation du crime et dans le choix de la peine. Le système pénal s'est alors développé. Vous voulez réagir sur...
Peut-être, enfin, dans la définition que tu donnes, on a vraiment l'impression que c'est un truc progressiste, la prison par rapport à, ouais. au système que c'était avant, bah, justement de la torture et de tous les actes horribles qui existaient avant la Révolution. Et souvent, c'est encore un peu présenté comme ça. Enfin, en fait. Ça va quoi, on s'occupe d'eux, ils sont nourris, ils sont logés, et en fait, bah, pour moi c'est de la torture blanche quoi, c'est de la torture qui dit pas son nom, mais qui fait que bah, on va rester enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés à 3 pendant 5 ou 10 ans, et pour moi ça c'est de la torture, et c'est, enfin, quand je discute avec les gens et tout, je mets souvent en avant le fait que bah, c'est effectivement de la torture, la prison, et du coup, c'est important de le répéter, quoi. Et du coup, de le voir comme une continuité de ce qui se passait avant, bah, je trouve ça important de le présenter comme ça, quoi.
Ouais, c'est vrai que dans l'imaginaire populaire, c'est indépassable, en fait. C'est la solution, en fait, le remède. On n'imagine pas, en fait, une justice sans prison. C'est la solution qui n'est plus questionnable.
Ouais, enfin en tout cas les gens ils ont pas bah un des trucs qu'on nous dit souvent c'est ah bah oui mais genre comment on ferait sans la prison, ça serait l'anarchie, ça serait le chaos, ça serait et du coup dans l'imaginaire des gens, c'est quelque chose qui est assez fort quoi en tout cas.
Complètement, les gens il y a la peur en fait, la construction de la peur aussi qui fait eh ben qu'on peut pas dépasser nos imaginaires et penser à de la solidarité, de l'entraide, et pas uniquement de la violence ou je sais pas de l'autodéfense ou de la préservation de ses biens absolument quoi.
Et puis il y a l'idée aussi que une personne qui aurait enfreint la loi l'aurait fait en toute connaissance de cause ou a le choix de le faire. Et donc, si elle le fait, il y a forcément la justice qui serait neutre derrière, qui vient pour punir, parce qu'il faut punir sans chercher à comprendre bah, les conditions sociales, les conditions d'existence qui ont amené une personne à commettre tel acte. Et du coup, ça fait de l'État un espèce de truc omniscient qui serait neutre et qui serait bon par nature, quoi. Alors que dès le début de la prison, l'État s'en sert pour éloigner ceux qui sont dangereux pour sa sécurité quoi. Donc ça a été pendant ça l'est toujours, des personnes qui sont potentiellement dangereuses à l'ordre des choses, à ouais, l'ordre d'existence de l'État quoi.
C'est pas le bien contre le mal. Ouais. Et donc ça me fait penser aussi à la loi qui crée aussi nos imaginaires. Avec l'utilité de la peine qui se définit ainsi par la loi afin d'assurer la protection de la société. Donc là, c'est tout à fait ce que j'étais en train de dire, la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social. Dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction. Donc là, juste, on peut rester sur restaurer l'équilibre social. Donc là, effectivement, c'est inquestionnable aussi. On est censé avoir une vision commune de ce qu'est l'équilibre social.
Et mettre de côté le fait que la justice soit une justice de classe et que et souvent la neutralité, ce que tu disais, de l'État, de la justice ou de la prison ou je sais pas quoi, en fait, c'est pas du tout neutre. Et la justice et les lois sont là pour défendre un certain ordre social qui est un ordre capitaliste, un ordre de domination, un ordre des gens qui sont au pouvoir, et du coup qui est là pour sanctionner tous les comportements qui vont pas dans le sens de l'ordre social attendu, quoi. Et du coup, par choix ou par débrouille, mais en tout cas, voilà, la justice, et d'ailleurs, on le voit, c'est très rare que des gens, que des puissants ou que des politiciens ou que des capitalistes ou je sais pas quoi, genre termine entre les barreaux, et moi je le souhaite pas non plus, hein, parce que je souhaite la prison à personne, mais du coup on voit bien que Balkany, il peut se permettre de pas respecter son bracelet électronique, et plutôt ça va, il s'en sort pas trop mal, mais en fait la majeure partie des gens qui sont confrontés à la justice, au bracelet électronique ou à la prison, ben en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe, quoi. Et du coup... C'est bien de, en tout cas, d'insister sur le fait que la justice n'est pas neutre et que l'État non plus, quoi.
Ouais, c'est le bras c'est le bras politique du système carcéral. Et donc la punition, on a décidé un peu, c'est plutôt récent dans l'histoire du système carcéral, une nouvelle fois, que ça devait passer par l'enfermement. Pourtant, la prison constitue une torture qui isole et bousille le corps et l'esprit, quelles que soient les conditions. Ça, je l'ai pris d'un de vos tracts. Donc l'enfermement, est-ce que vous faites une différence d'ailleurs entre prison et enfermement ?
Oui, l'enfermement ne se restreint pas qu'à la prison. Enfin, il y a les CRAC, on pourrait dire que c'est des prisons, mais aussi l'enfermement psychiatrique.
L'enfermement pour mineurs aussi, enfin toute la justice pour mineurs. Pour moi en tout cas, l'enfermement se réduit pas à la prison, mais la prison, elle est partie prenante de ce système, quoi. Et en tout cas, ils ont réussi à concevoir des institutions un peu, ou des institutions fermées, ou des murs pour différentes catégories de population. Tu parlais des HP. Il y a les CRA pour les personnes, les centres de rétention administrative pour les personnes qui n'ont pas les bons papiers. La prison pour les personnes qui ne respectent pas la loi. Des centres fermés pour les jeunes qui ne respectent pas la loi non plus, avec qui ça se passe mal. Et du coup, il y a des institutions enfermantes sur différents pôles de la vie, quoi. Et en tout cas, c'est la réponse que l'État donne à des comportements qui lui vont pas, quoi. C'est enfermer, mais mettre de côté et enfermer, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on a, on le sait en fait, on a tous et toutes à l'esprit que ces murs existent en fait et qui peuvent conditionner, et ton comportement, si t'as le choix en plus. C'est un peu ce qui a été induit tout à l'heure, c'est cette notion de choix et de ta réalité de vie en fait. Et donc les murs sont visibles aussi invisibles. Et pour les murs visibles, il y a cette idée aussi de marchandisation en fait de la liberté et de menace un peu permanente sur ton comportement.
Oui, c'est sûr. Et aussi un autre truc qu'on n'a pas abordé jusqu'à là, c'est que la prison, elle s'arrête pas aussi au mur de la prison. Et du coup, elle s'est élargie ces dernières années avec tout un tas de dispositifs en dehors de ces murs, avec des contrôles judiciaires qui ont le nombre a explosé ces dernières années, où ils mettent de plus en plus de gens en attente de leur procès en contrôle judiciaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire des pointages au commissariat, ça veut dire des obligations de soins des fois, ça veut dire des interdictions de voir des gens, tout un panel dont les juges peuvent piocher dedans pour punir avant même un procès. Hein. Y a le bracelet électronique. Y a de plus en plus de sursis probatoires avec mise à l'épreuve. Et après, quand vous sortez de la prison, il y a aussi les conditionnels. Du coup, il y a quand même la menace, si jamais ça se passe mal quand vous êtes dehors, de pouvoir y retourner. Il y a les semi-libertés où c'est pareil. Vous travaillez normalement en journée et vous êtes censé retourner à la prison le soir. Mais si jamais ça se passe mal, par exemple, avec votre patron, vous êtes bien obligé de fermer votre gueule parce que sinon, il y a la menace de retourner définitivement en prison. Enfin, c'est tout un tas de dispositifs qui fait que la prison, elle est aussi en dehors des murs et que... Nous, on est contre la prison, mais on est aussi contre les peines alternatives et tous les dispositifs alternatifs mis en place, quoi. En tout cas.
Et puis il y a le truc que ça devient automatique en fait. Ces peines-là, dites alternatives, deviennent automatiques quand il n'y a pas lieu d'avoir de la prison ferme. On peut généralement on peut mettre de la prison avec sursis et puis il y a certaines peines où c'est même pas de la prison avec sursis. Et en fait, je disais un truc en préparant l'émission du président des juges d'instruction ou juge d'application des peines, je sais plus, qui disait qu'en fait le recours au bracelet électronique est devenu automatique. Ah, c'est-à-dire on va pas lui mettre du sursis, on lui met le bracelet. En fait, c'est ça coûte rien quoi. Et donc on fout des peines comme ça à des gens qui, il y a quelques années, n'auraient pas eu ces peines-là, et puis se retrouvent en contrôle avec un bracelet, et se retrouvent enfermés chez eux, quoi. C'est ça, c'est un enfermement en dehors des murs.
Oui, c'est pour ça que vous expliquez que les peines dites alternatives constituent aussi un moyen de contrôle, une pression, et c'est une peine en soi, c'est pas quelque chose... tranquille, on est aussi détenu chez soi.
Oui, c'est ça, c'est vraiment, on est notre propre maton, du coup, avec le bracelet électronique, c'est assez impressionnant, quoi. Il y a des heures de sortie, des heures de travail, on est notre propre maton sur un territoire défini, quoi, qui fait que des fois, il y a même des gens, quand ils vont sortir leur poubelle à la cave, ça bip parce qu'il y a une certaine distance qui est prévue. Et du coup, ils se retrouvent emmerdés derrière, appelés par le SPIP, parce qu'il y a un suivi derrière par les matons. Ils le voient directement, quoi, et du coup, ça fait qu'ils appellent et à chaque prise de risque. Pour le bracelet, il y a quand même ce truc de ça bip, du coup.
Tu le sais, tu veux dire.
Ouais, le contrôle judiciaire, c'est encore plus fourbe parce que, par exemple, sur les interdictions de voir des gens, rien ne t'interdit de voir des gens, mais si jamais tu te fais toper avec la personne, du coup, c'est à toi de te dire, mais ce qui fait que des fois, il y a des personnes qui sont en couple, qui peuvent pas se voir, et du coup, qui des fois prennent le risque, mais il y a toujours l'épée de Damoclès, la peur, c'est basé sur l'autocontrôle et la peur, quoi. Vraiment.
Et t'es exclu aussi, je suppose, de certaines manifestations, clairement. En fait,
il y a eu des interdictions de quitter le département, ou de rentrer sur un département pour des manifs, des trucs comme ça.
Des interdictions de manifs. Enfin, pendant les Gilets jaunes, par exemple, ils les ont mis à la pelle, quoi. Ouais. Chaque fois qu'il y avait une personne qui passait devant le juge, qui était en contrôle judiciaire ou qui passait au tribunal, quasi systématiquement, ils mettaient l'interdiction de manif, quoi. Sur plusieurs années, des fois. Enfin, c'est quand même des trucs qui sont assez lourds, quoi.
Donc là, on parle aussi d'imaginaire. La prison a pour dans l'imaginaire populaire, c'est quelque chose d'assez cool en fait. J'ai du mal à comprendre pourquoi, mais en tout cas c'est une sanction plutôt acceptable, j'ai l'impression, et le bracelet électronique aussi, on a l'impression que c'est quelque chose, une faveur qu'on fait aux gens en fait. Donc il faut aussi lutter contre ces idées reçues. On parle d'information, et c'est aussi ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous faites, vous, sur les marchés, entre autres
En tout cas, on l'a vu cet été avec cette histoire de karting, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la polémique qu'il y a eu, là, c'était de Colantes. Et du coup, la prison, c'était assez impressionnant, quoi. Elle a été décrite vraiment comme une espèce de colonie vacances, en mettant juste ce truc-là en avant, alors que c'était un truc qui était organisé avec l'administration pénitentiaire. Enfin, tout le monde était au courant avant, au ministère de la Justice aussi. Mais ils ont réussi à le retourner, quoi. Et dans l'opinion publique, c'était assez fort. Et du coup, ce côté... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous disent quand même c'est la colo, ils sont bien traités ou je sais pas quoi, mais quand même c'est un imaginaire qui reste assez présent, quoi. Je sais pas si tu veux...
C'est vrai qu'on entend beaucoup dans les médias que la prison, enfin en tout cas on sent que la prison ça devrait pas être juste, enfin dans leur discours hein, je dis que ça devrait pas être juste une privation de liberté, mais ça devrait être carrément genre privation de loisirs, privation d'accès à la culture, privation de discuter avec ses proches, enfin ce qui est déjà en partie le cas, mais pour eux ça va pas assez loin. Il y a quand même ce discours là que je trouve très inquiétant.
Ouais, carrément. J'ai l'impression que dans une nouvelle fois, l'imaginaire, la sanction doit être liée à de l'humiliation, la punition doit être violente en fait. Et c'est la société en fait, le commun, qui a aussi un avis par rapport à ça, parce qu'en fait, avoir un avis sur des conditions de détenus, mais en fait, on est rien ni personne en fait quelque part. Et c'est la construction fait qu'on est en vie, nous, même si on n'a rien à voir avec le truc, que la personne souffre. Parce que la punition est commune, en fait. Elle nous appartient aussi.
Et quand bien même, en tout cas, je pense, parler des conditions de détention, c'est important. Mais quand bien même, je pense qu'il y aurait... une télé, des draps en soie, je sais pas, des chiottes en or ou je sais pas quoi, bah ça resterait une torture, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est la privation de liberté, le fait d'être enfermé, de pas choisir ses mouvements, le fait d'être obligé de cohabiter avec des gens, avec des matons qui briment à longueur de journée, avec des sanctions, le risque du mitard. Du coup, le mitard, c'est être tout seul dans une cellule à l'isolement pendant plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines. En fait, c'est ça la prison, quoi. C'est la violence, et peu importe, pas peu importe quand même, parce que les conditions de détention, je pense que ça fait la différence sur le vécu de la détention, mais sur le fond, en tout cas, ça reste la même chose, quoi. C'est une privation de liberté avec des gens qui sont là pour vous rappeler que vous n'êtes pas libre et vous mettre la misère si jamais vous déviez des comportements aussi qui sont attendus à l'intérieur de la prison, quoi.
C'est vrai que pour avoir des informations sur ce qui s'y passe dans la prison, donc c'est compliqué. Il y a aussi toute une histoire qui correspond aussi aux luttes. Dans les années 70, il y a eu la création du GIP, qui est le groupe d'information sur les prisons. C'est un mouvement d'action et d'information issu des manifestations de 71, signé par Domenac, Michel Foucault et Vidal Naquet. Qui ont permis en fait de donner la parole pour la première fois aux détenus. Et il y avait une grosse mobilisation des intellectuels et des professionnels impliqués dans le système carcéral. Et quelque chose m'a un peu troublé sur cette histoire, c'est que j'ai l'impression que dans tous les mouvements révolutionnaires, il y a une avant-garde intellectuelle qui soutient ces combats. Paradoxalement, j'ai envie de dire que au-delà de cette organisation universitaire, les personnes enfermées sont plus issues de milieux plus prolétaires, pauvres. Là, je parle spécifiquement des années 70, mais est-ce que vous avez une réflexion sur ce décalage?
Moi je dirais pas que c'était les années 70 comme aujourd'hui. De ce que j'en sais, c'était quand même, il y avait déjà pas mal de militants maoïstes et trotskistes qui étaient enfermés pour des manifs, pour des révoltes. Et du coup, il y avait quand même une production intellectuelle au sein des prisons, et je pense pas que ce soit venu juste de l'extérieur, quoi. Il y avait quand même un lien entre ceux qui sortaient et des intellectuels, d'où la naissance du groupe, je pense. Après, je suis pas un spécialiste de cette époque. Puis après, il y a eu quand même la naissance du comité d'action des prisonniers aussi, quelques années après, je crois que c'est 2-3 ans après, c'est quasiment à la même période, où là, c'est des prisonniers eux-mêmes qui ont vécu et qui ont commencé à créer un groupe sur des bases syndicalistes un peu. Et donc il n'y a pas eu que un mouvement d'intellectuels.
Et en plus, avec une critique du comité d'action des prisonniers vis-à-vis du GIP, qui était quand même assez forte. Qu'est-ce que le GIP a permis? Ça a quand même permis... de mettre l'accent sur des conditions de détention qui, à la fin des années 60, au début des années 70, étaient vraiment genre ignoble de chez ignoble. En solidarisant, il y a eu des gros mouvements de prisonniers au tout début des années 70, en permettant quand même de faire sortir leurs paroles et de se solidariser avec, ce qui pour moi est pas rien. Mais avec des perspectives qui sont pas les miennes, je pense, en activant les réseaux de gauche, en utilisant leur pouvoir et leur influence pour que le discours des prisonniers sorte dans la presse et dans les médias. Bon, ce qui est une première étape et ce qui n'est pas rien, mais qui pour moi n'est pas suffisant, quoi. Mais voilà, au moins, je pense, ça a permis ça et c'était pas suffisant. Et d'ailleurs, ils ont été bousculés après par le comité d'action des prisonniers et d'autres gens qui ont toujours continué à lutter à l'intérieur et à l'extérieur contre les prisons, quoi.
Je vais vous faire écouter le témoignage d'un auteur, Ben Othman, voilà, qui est un braqueur, qui a passé plus de 10 ans en prison, qui parle aussi un peu de cette époque.
La prison n'était pas... sans rien de péjoratif, c'était pas un hôpital. On croisait pas autant de pathologies, c'est-à-dire d'addiction sur les drogues, de gens psychotiques. On avait une prison, grosso modo, pas de professionnels du crime, mais de personnes qui avaient l'héritage de la marginalité. Voilà.
Les affranchis de l'époque.
Les affranchis de l'époque, beaucoup de politiques, parce que des années 68, etc., etc. Et on avait un très très gros atout, c'est que l'extérieur suivait la prison. Avec le Foucault, avec le CAP, avec tout l'historique et la mémoire carcérale. Donc moi j'arrive dans une prison qui ne laisse pas indifférent le monde extérieur. Et c'est là où j'ai fait de très très belles rencontres, puisque à l'époque il y avait des annonces en Libération, un petit cahier qui s'appelait Sandwich, et qui listait toutes les prisons de France, et les gens, les citoyens dehors, écrivaient aux prisonniers. Donc il y avait une petite noblesse dans le fait d'être un prisonnier, et de droit commun. Parce qu'on avait un peu aboli le clivage politique et droit commun. C'est-à-dire que tout prisonnier était un prisonnier politique.
Et puis tu as créé de la prison même une émission radio et puis un journal, L'Envolée, non ?
Oui, mais ça a été longtemps après. Ouais. Ça a été dans les années 2000 où la révolte archaïque s'est quand même conscientisée. Et il y a eu toujours ce rapport à la correspondance où j'ai écrit avec beaucoup de prisonniers politiques. Voilà, j'ai eu une correspondance avec Joël Aubron d'Action Directe pendant 6 ans. Donc j'étais en lien avec Delia Lopez-Riano, qui était une prisonnière basque. Avec...
Voilà, donc c'est vraiment... On est dans les années 70, il parle de prisonniers politiques aussi, que chaque détenu est potentiellement un prisonnier ou une prisonnière politique, de la communication aussi avec les prisons, c'est des mots assez forts d'ailleurs. Vous voulez réagir sur cette notion de prisonnier politique déjà ?
Carrément. Moi, je considère que... Bon, je pense que c'est une distinction qui est toujours utilisée ou reprise par des gens. Pour moi, il n'y a pas de clivage ou de distinction entre prisonnier politique ou prisonnier droit commun. Pour moi, tous les prisonniers sont politiques parce que... ils ont été condamnés pour leur déviance ou en tout cas ne pas avoir respecté les règles du jeu de cette société, quoi. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de prisonnier politique ou de droit commun. Je pense c'est aussi qu'il y avait des gens qui mettaient beaucoup d'enjeux à se détacher ou à se distancier du reste des prisonniers, quoi, en disant « Ah bah, nous, on est politisés, on veut mieux que les autres. Les autres, c'est des voleurs, je sais pas, les droits communs. » Enfin, nous, on le fait avec des motivations politiques et pas pour de l'argent. Et voilà, moi, je pense que cette distinction, elle me parle pas. Et j'ai pas envie de la mettre en avant, quoi.
On continue un peu sur les chiffres, puisque vous me l'avez demandé, vous m'avez réclamé des chiffres. Donc, alors j'ai le 28 décembre, bon, ça n'a pas grand intérêt, ça comme chiffre. Mais et c'était un mercredi. Le mercredi 28 décembre, il y avait 72 836 personnes incarcérées. Les établissements pénitentiaires enregistrent un nouveau record de détenus, soit une densité carcérale de 120% contre 115,2% il y a un an. Bon, en gros, 120%, ça correspond à la surpopulation. On sait aussi, on va en parler, mais que la surpopulation, c'est aussi un argument utilisé par le pro-carcéral pour plus de prisons. Et en quoi des nouvelles prisons ne vont pas régler le problème de la surpopulation ? Parce que ça semble simple. Il y a trop de monde dans les prisons, on manque de place, bah autant faire des prisons, comme ça, ça va libérer des places.
En fait, c'est un argument qui revient à chaque fois, chaque plan prison, ils nous ressortent ça. Alors qu'en fait, Ils ont besoin de les. Enfin, ça participe aussi d'un discours sécuritaire qui est bien installé depuis des décennies maintenant, où la société s'en sauvage, où du coup on va avoir besoin de mettre plus de gens en prison parce que y a de plus en plus de gens qui ne respectent pas la loi. Et en fait, c'est pour le petit historique, c'est l'argument qui avait été sorti quand la prison a été déménagée de Saint-Michel à Seyss, donc il y a début des années 2000. Et pour la petite histoire, en fait, 3 mois après, elle était déjà pleine. Le quartier, en fait, ils ont déménagé la prison de Saint-Michel. 3 mois après, elle était déjà pleine, au-dessus de 100% d'occupation, en ayant seulement déplacé les quartiers hommes. Donc il restait encore les femmes et le semi-liberté, quoi.
Et du coup, si on regarde vraiment, vous pouvez aller voir, je crois que c'est sur le site de l'OIP, l'Organisation Internationale des Prisons. Si on regarde la courbe du nombre de prisonniers et la courbe du nombre de places en prison, c'est vraiment parallèle. Du coup, à chaque fois qu'ils construisent des nouvelles prisons, ils les remplissent direct et la surpopulation reste exactement la même, quoi. Et c'est juste l'argument qu'ils mettent en avant pour dire on fait un truc pour les prisonniers, on va essayer qu'ils soient pas à 3 par cellule, du coup on va construire des nouvelles prisons. Mais en fait, dès la construction des prisons, en fait, même quand ils parlent de... Parce que normalement, l'encellulement individuel, c'est censé être... dans leurs différents plans, ils sont censés tendre vers ça. Et en fait, il y a des prisons, genre à Valence par exemple, ils avaient déjà mis genre des lits superposés, 3 prises dans les cellules, enfin tout est déjà, même dans la conception, alors qu'ils parlent d'encellulement individuel, tout est fait pour qu'il y ait 2 ou 3 personnes par cellule, quoi.
Et oui, parce que plus il y a de place, plus les juges condamnent. Donc de toute façon, ça, comme tu dis, l'occupation est déjà effective avant même que la prison soit construite. Et surtout, semble-t-il, ça concerne surtout les maisons d'arrêt, donc des détenus qui ne sont pas encore jugés.
Des détenus qui ne sont pas encore jugés parce qu'il y en a de plus en plus qui sont en préventive.
Ou des courtes peines.
Ouais, et en fait, il y en a de plus en plus. Ça devient... En fait, c'est comme ce que je disais tout à l'heure sur le bracelet électronique. Plus tu as de place, plus tu vas facilement mettre des gens en taule, puisque c'est la facilité. Il y a une place, même s'il n'y en a pas d'ailleurs, ils ne gênent pas, quoi.
Vas-y. Et du coup, c'est... depuis la fin de la peine de mort... la référence a été la prison, et du coup on a envoyé des gens en tôle pour tout et n'importe quoi, et en 40 ans il y a eu une inflation des délits, une inflation des lois, et des gens qui se retrouvaient pas en prison jusqu'à là, je pense la majeure partie des gens qui sont en prison là c'est pour de la drogue, ouais, globalement, ça, des délits routiers. Et du coup c'est des personnes qui avant soit n'allaient pas en prison, ou avait des, enfin les peines qui sont là, quoi. Mais du coup il y a eu tout un panel de personnes qui sont rentrées en prison là où ils auraient jamais été avant pour la même chose et les mêmes délits, quoi, et qui prennent plus cher aussi parce que du coup les peines, il y a eu une inflation aussi des peines qui ont été données, et les juges ont la main beaucoup plus lourde maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans, quoi.
Et puis c'est aussi un moyen de réaffirmer le besoin de l'État et de la justice. C'est-à-dire qu'ils nous disent, la société s'en sauvage, on a besoin de plus de places de prison, on remplit les prisons, regardez, il y a de plus en plus de gens en prison, c'est bien la preuve que la société s'en sauvage. Donc il y a besoin
c'est
de
bien
plus
foutu,
de...
hein, t'as vu.
Ouais, ils ont bien pensé leur truc.
Et il faut aussi sortir, s'extraire de la tête que les nouvelles prisons sont dénuées de violence, en fait, psychologique aussi sur les détenus. Il y a un taux de suicide important aussi dans ces nouvelles prisons, qui sont ultra sécuritaires, qui ont été conçues aussi pour déshumaniser totalement le rapport à l'autre, en fait.
On avait fait une prose justement sur un petit film qui s'appelle Le Déménagement, où en fait il filme des prisonniers d'une ancienne prison de Rennes, je sais plus comment ça s'appelle, mais qui a été transférée en banlieue de Rennes. et du coup qui parle de justement ces cellules qui sont totalement déshumanisées, où on les envoie dans des zones industrielles où auparavant ils étaient en ville, ils pouvaient avoir des contacts avec des gens qui passaient dans la rue, où ils pouvaient avoir des contacts entre eux, où ils se font passer des yo-yo, où il y a...
Ouais, il y a tout un nouveau système là, qui empêche ça maintenant, voilà, de barreaux.
C'est ça, c'est maintenant t'as des espèces de grilles où tu peux même pas passer un doigt. Et il parle de, effectivement, t'as des prisons plus modernes, mais qui quelque part sont inhumaines, quoi, parce que tu vis plus dedans. Enfin, pas comme si tu vivais. On va pas dire que tu vivais avant dans les anciennes, mais là c'est carrément aseptisé, ou enfin il y a ce truc de on préférait les anciennes parce qu'au moins on pouvait avoir du contact humain avec des...
Ouais, puis j'imagine même pour la famille, plus c'est loin, plus c'est compliqué, les changements, c'est une réalité à Seyss, les transports en commun, c'est une industrie clairement qui génère de l'argent. Pour revenir toujours sur les violences, je vous refais écouter Ben Othman qui parle des suicides en prison.
Un suicide est considéré comme la dernière liberté du prisonnier de faire un choix. Alors que souvent, ils sont très très souvent acculés au suicide. Alors c'est souvent le silence, parce qu'on apprend le décès par suicide quelques jours après, vu l'absence du copain prisonnier. Parce que l'administration pénitentiaire fait tout pour que ça ne s'enflamme pas. Si un prisonnier est témoin d'un suicide et qu'il veut porter témoignage, l'administration pénitentiaire lui dit « si jamais tu parles, on va te transférer à l'autre bout de la France. Si ta famille est à Paris, on va t'envoyer à Marseille. » Donc ta famille sera obligée de faire Paris-Marseille pour aller te voir. Voilà. Donc l'administration pénitentiaire met une chape de plomb par la menace, par le chantage, sur les prisonniers qui pourraient être témoins d'un suicide ou de ce qu'on appelle une mort suspecte. À savoir quand des surveillants frappent un détenu. Et pour donner un exemple gravissime, un jeune homme est mort un dimanche matin. La famille n'a été prévenue que le mercredi, 3 jours après. Une autre famille a été prévenue sur répondeur. L'administration pénitentiaire a téléphoné à la famille, elle est tombée sur le répondeur, au lieu de rappeler, elle a laissé un message. « Veuillez contacter la prison, votre fils est mort. » Et raccroché. Et c'est réel. C'est affreusement réel. Alors j'ai songé à une forme de suicide qui n'est pas répertoriée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu envie de me suicider, j'ai pensé à l'évasion. Et l'évasion est une forme aussi de suicide, mais... un peu plus animal, c'est-à-dire franchir un mur d'enceinte ou essayer de s'évader, c'est prendre le risque d'une balle dans la tête. Donc à tous ceux qui sont dans les prisons et qui veulent se suicider, tentez plutôt l'évasion. Le résultat pourrait être le même.
Bon, il parle aussi de l'administration pénitentiaire, de la violence froide, et ça poursuit aussi la punition, je trouve... c'est hyper fort ce qu'il dit, c'est dur d'enchaîner.
Mais en tout cas, je pense, j'ai pas les chiffres devant moi, mais je pense effectivement en prison le taux de suicide est genre, je pense que ça doit être 5 ou 10 fois plus qu'à l'extérieur. Et l'autre truc qu'il dit, enfin sur les morts suspectes, c'est que il y a régulièrement des matons qui tuent des gens en prison. À Toulouse, il y a eu le cas de Jawad en 2018, je crois, il y a quelques années. Enfin, il y avait deux personnes qui ont été tuées au mitard à quelques jours d'intervalle par une équipe qui est toujours en place à Seyss, hein, qui était appelée par les gens l'escadron de la mort. Du coup, ça arrive très régulièrement. D'ailleurs, il y a des collectifs qui sont un peu montés. Enfin, cette question, elle est un peu en train d'émerger sur les violences pénitentiaires. Parce que c'est impossible d'avoir des informations, ils donnent rien. Déjà, quand c'est un suicide, il en parle dans le témoignage, c'est galère d'avoir des infos, l'administration pénitentiaire prévient pas. Enfin, c'est un truc complètement déshumanisé, hein. Ils en ont rien à foutre du rapport à la famille. Ils balancent une info quelques jours après, c'est impossible d'avoir des informations de quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment hyper étouffé. Et du coup, ça. Souvent, des suicides en prison se révèlent être des assassinats politiques de personnel pénitentiaire, quoi.
Il y a un nouveau projet de construction, parce qu'il faut encore plus de prisons, des prisons. Donc cette fois-ci à Muret, on va parler de ça après une petite pause musicale. Je vous propose Le Pieu de notre bon ami Marc Robin, ça n'a rien à voir avec Batman et Robin, c'est pas lui. Et puis après on va un peu se focaliser sur, sur la construction. Vous avez les plans, vous avez, de la prison, c'est, on peut faire des modifications. Je leur dépasse des trucs, des passages secrets.
Si on les avait, on les brûlerait. Ouais.
Bon ben on va parler nous un petit peu plan entre nous et puis on vous laisse avec le pieu. À toutes.
À toutes.
Je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent. Petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés, tant qu'il sera planté comme ça, n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, 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 et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains, et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si il tombera, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La, 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 la. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il